La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit si vous voulez découvrir des femmes et des hommes qui osent et qui bâtissent déjà le monde de l'après-crise, mais aussi des entrepreneurs qui se réinventent pendant cette période de confinement. On en parle pendant une heure, à mes côtés bien sûr, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Allez, en route pour un petit body challenge.
C'est
aujourd'hui.
Parti.
Autrement dit, en cette période de confinement, se met au sport à la maison. Alors les magasins de sport avaient été dévalisés à la sortie du premier confinement. Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'achète-t-on sur internet pour faire du sport? Comment ces magasins se préparent-ils pour Noël? On en parle jusqu'à 14h avec le patron de GoSport.
À la une en effet, Emmanuel, on essaye de se bouger pendant ce deuxième confinement, mais aussi on se détend, on chasse les idées noires. Pour cela, une appli vous accompagne. C'est Petit Bambou et son fondateur sera avec nous dans quelques instants.
On va vous parler également d'une marque de sport qui existe depuis les années 30, une marque qui a su se réinventer. Vous l'avez peut-être oublié et pourtant Ungaria est toujours là. Ce sera notre saga du jour à 13h30.
Bien sûr, les trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, un entrepreneur vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, bienvenue en Bretagne, du parfum breton. C'est très sérieux. Le pitch va-t-il nous convaincre? Rendez-vous 13h45.
Et pendant tout ce confinement, la France bouge vous donne un coup de main et répond à vos questions. Aujourd'hui, comment on fait en sorte d'éviter une faillite? Gros plan notamment sur les salles de sport qui ne vont pas pouvoir rouvrir le 1er décembre. Nathalie Carré de la CCI France sera avec nous aux alentours de 13h50.
Bienvenue dans la France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Alors, les salles de sport sont fermées, mais il faut pourtant, paraît-il, bouger son corps, utiliser l'heure de liberté pour marcher, pour courir, enfin bon, pour faire bien ce que vous voulez. On en parle en tout cas pendant une heure avec des solutions pour ne pas se laisser aller.
Bonjour Philippe Favre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du groupe GoSport. GoSport, c'est 125 magasins en France, 40 à l'étranger. Alors on peut le rappeler, votre activité a très bien marché à l'issue du premier confinement. Comment vous vous portez là, en ce mois de novembre confiné ?
On aurait préféré être ouvert, évidemment, mais on continue à essayer de fournir nos clients. D'abord par le biais d'Internet, hein, où on continue à vendre des produits. Je pense qu'on reviendra là-dessus, sur le type de produits qu'on vend sur Internet. Et aussi en laissant quelques magasins ouverts. Parce que comme vous le savez, dans les exemptions de fermeture, il y a les produits de cycle et de réparation de cycle. Donc nous avons une trentaine de magasins qui sont ouverts. Et qui ont les ateliers ouverts qui permettent à nos clients de venir réparer, voire acheter des vélos.
Alors on va y revenir là-dessus dans un instant. Revenons peut-être sur les annonces du Premier ministre. Jean Castex a parlé hier à 18h, on a pu suivre ça sur Europe 1. Pas de réouverture des commerces avant, au mieux, la phrase est quand même importante, le 1er décembre. Est-ce que c'est un horizon raisonnable pour vous, patron de GoSport?
Disons que c'est le au mieux qui nous fait peur, hein, qui nous inquiète un petit peu. On avait peu d'espoir que les magasins rouvrent en cette mi-novembre. Maintenant, on va attendre l'évolution des différents indicateurs sanitaires pour voir si on arrive à les contrôler pour pouvoir ouvrir le 1er décembre. Mais c'est vrai qu'il serait important d'ouvrir dès le 1er décembre parce que, comme vous le savez, le mois de décembre est un mois très important pour le commerce en général et pour GoSport aussi.
Vous disiez qu'on avait peu d'espoir de pouvoir rouvrir là. Est-ce que malgré tout, vous en voulez un petit peu aux autorités d'avoir quand même instillé l'idée que ça pourrait peut-être être possible?
Je ne sais pas. En tout cas, nous, commerçants, on n'y a jamais cru. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Est-ce que c'était pour la population? Ça, je ne sais pas. Mais en tant que commerçant, on sait ce qui s'est passé lors du premier confinement. Il y avait peu d'espoir, quasiment aucun espoir qu'on rouvre le 15 novembre. Donc on s'est toujours fixé la date du 1er décembre et on espère pouvoir la tenir parce que celle-ci est importante.
Alors, rouvrir le 1er décembre, ça veut dire rater dans les magasins physiques le fameux Black Friday hein, qui depuis 5-6 ans prend de plus en plus d'ampleur en France. Ce sera cette année, donc visiblement seulement sur Internet. Bercy a tenté de le repousser, mais Amazon notamment a refusé. Vous, de votre côté, chez GoSport, vous auriez aimé ce report?
Alors, nous, on avait, pour être tout à fait transparent, on avait envisagé de le faire un petit peu différemment cette année. Parce qu'on sait bien que c'est un moment important pour la consommation, mais on voulait éviter la surconsommation, justement. Donc, néanmoins, l'actualité nous a rattrapés et on va faire un Black Friday traditionnel.
Quand vous vouliez dire différent, c'est-à-dire que vous vouliez faire moins de promotions, qu'ils soient plus écologiques, qu'ils soient
plus choisis.
Exactement, plus choisis et plus orientés vers le sport, parce que nous sommes mis en scène de distribution de produits de sport, donc on voulait organiser plus de challenges vers le sport lors de cette période-là.
Donc ce sera
Ce sera l'année prochaine, de manière un peu plus,
plus
forte.
Ce que vous nous dites sur Europe 1, on va taper très fort, comme tous les autres, et on va faire de grosses promotions.
On ne va pas taper très fort.
On va taper fort.
On va faire un Black Friday traditionnel. Il ne faut pas oublier qu'il nous manque un mois de vente, le mois de novembre, donc avec des stocks. Donc on est obligé de les écouler. Donc en ce qui concerne la date, pour répondre exactement à votre question, je pense qu'elle est prévue fin novembre. Gardons-la fin novembre, il n'y a pas de raison de la déplacer.
Alors, imaginons, scénario idéal pour vous, on va prendre le meilleur scénario, ce serait d'ouvrir le 1er décembre. Est-ce que ça vous permettrait, oui ou non, de sauver Noël ?
Oui, le 1er décembre nous permet de sauver Noël. Le 1er décembre, nous, avec on espère un rebond et des ventes qui ne sont pas faites en novembre, nous permettra d'avoir une année qui sera pas si, enfin en tout cas un Noël qui sera pas si catastrophique.
Ça représente quoi Noël?
Mais le 1er décembre, c'est vraiment important.
Ça représente quoi en termes de chiffre d'affaires pour l'année Noël?
Pour nous, le mois de décembre, c'est environ 11% du chiffre d'affaires.
Donc ça reste un mois extrêmement important. A priori, pour rouvrir, là encore, c'est ce qu'a dit le gouvernement hier soir, il faudra des protocoles sanitaires renforcés. Quand on va déjà dans vos magasins, c'est déjà quand même sacrément strict. On se lave les mains avec du gel en entrant. On doit suivre une forme de parcours. On ne peut pas être trop nombreux en même temps. Vous êtes prêt à quoi pour que ça reste économiquement viable pour vous?
Donc, je pense que la meilleure solution, ce serait de diminuer la jauge. Actuellement, elle est à une personne pour 4 mètres carrés. On pourrait la passer à une personne pour 8 mètres carrés. Et ça, ce serait économiquement viable et ça permettrait aux gens de se déplacer. Les autres options qui sont envisagées, notamment la prise de rendez-vous, n'apporteraient pas beaucoup de trafic en magasin, ne permettraient pas le vrai achat de Noël, qui est un achat d'impulsion, un achat où on a envie d'avoir des idées, etc. Donc on opterait pour une diminution de la jauge qui permettrait, je l'espère en tout cas, de préserver la santé des Français.
Donc, à la sortie du premier confinement, on va revenir un petit peu sur ce que l'on achète en ce moment. On se souvient, la sortie du premier, ça a été la ruée vers les tapis de sol, les vélos d'appartement. Aujourd'hui, on achète quoi en ce moment chez GoSport?
C'est à peu près pareil. Ah. Actuellement, sur notre site internet, on a des très bonnes performances dans tous les produits qui permettent le sport à la maison. Donc les tapis de sol, les tapis de course, les vélos d'appartement, vous le disiez, les haltères en fente, tous ces produits-là qui permettent de faire du sport à la maison.
Soyons clairs, vous n'en avez jamais vendu autant en même temps de votre histoire.
C'est clair, oui, c'est clair. C'est
chacun se trouve une âme de boxeur ou de yogiste.
Exactement, et chacun a envie de faire du sport, parce que le sport est quand même une activité, et le confinement l'a prouvé, une activité essentielle. Donc, tout le monde a envie de faire du sport. Et quand on le fait chez soi, c'est encore mieux.
On sait ce qui permet de doper les ventes chez vous, c'est souvent les compétitions sportives. Quand on voit Raphaël Nadal gagner Roland-Garros, on a envie d'une raquette de tennis. Exactement. Quand on voit le Paris Saint-Germain ou Marseille faire de belles performances en Ligue des Champions, on a envie d'acheter nos crampons pour aller jouer nous aussi. Là, le problème, c'est que certes, il y a des compétitions, mais il n'y a pas de public, c'est pas très fun. Est-ce que du coup, ça a un impact concret sur vos ventes? On achète par exemple moins de maillots de foot en ce moment.
Alors, on a beaucoup souffert, enfin, en tout cas cette année, on a souffert du fait qu'il n'y ait pas l'Euro par exemple. L'Euro en plus avec l'équipe de France, et comme on vend quand même beaucoup de répliques des maillots d'équipe de France et des maillots de l'équipe de France. Et donc cette année, on l'a vu sur nos ventes de ces produits-là. Pour tout ce qui est des compétitions normales, c'est vrai qu'il y a moins d'engouement, on le sent, sur les compétitions. Il y a moins d'engouement sur les produits reliés à ces compétitions.
Donc moins d'engouement. Vos magasins sont fermés, mais vous nous disiez en début d'émission qu'il y en avait tout de même 22 qui étaient partiellement ouverts, parce que parmi les activités autorisées à la vente, il y a la réparation des cycles, c'est-à-dire la réparation des vélos. Là aussi, il y a de la demande, il y a du trafic en ce moment là-dessus?
Non, ce n'est pas une activité qui va faire rentrer beaucoup de gens dans les magasins. C'est clair, mais c'est plus un service qu'on veut rendre aux Français qui ont besoin de réparer leur vélo, qui ont besoin de faire la maintenance de leur vélo, qui ont besoin d'acheter un vélo. Donc les magasins sont ouverts dans cette.
Mais soyons concrets, dans ces magasins, il n'y a que ce rayon d'ouvert.
Oui,
vous avez choisi les magasins comment? Puisque dans certains GoSport, le rayon vélo, il est au premier étage, il est au fond.
Il est souvent au fond.
Donc là, on fait comment? Il y a un parcours pour aller directement là?
Oui, il y a des signes, il y a ce qu'on appelle des rubalises qui ferment les autres produits du magasin. Et ensuite, le client est dirigé vers ce produit-là.
Là, vous l'avez dit, vous faites du service, parce qu'on imagine que ce n'est pas hyper rentable d'ouvrir un magasin. Donc, ça veut dire de l'électricité, un vigile, une personne qui a une hôtesse de caisse.
Exactement.
Vous y retrouvez dans configuration ?
On ne s'y retrouve pas économiquement, mais je pense que, une fois de plus, comme je disais, c'est un moment où on doit aussi servir les Français. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas télétravailler, qui ont besoin de prendre leur vélo. Un vélo peut avoir un problème, mais il faut pouvoir le réparer, et chez Gosport, on peut le réparer.
Philippe Favre, vous êtes le président du groupe Gosport, vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et en ce vendredi, ça fait du bien, on se bouge dans la France bouge, puisque l'on parle sport avec notre grand témoin du jour, Philippe Favre, le président du groupe Gosport.
Benjamin Blasco, bonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu ce gong ? Ça vous dit quelque chose ?
Oui, je l'ai reconnu.
Vous êtes le cofondateur de Petit Bambou. Vous avez fondé cette appli de méditation qui cartonne littéralement en 2013 avec deux amis. Auparavant, vous étiez cadre dans une entreprise américaine. Alors si je dis que ça cartonne, c'est parce qu'il y a plus de 6 millions d'utilisateurs. Vous avez embauché 17 personnes. Là, nous sommes en plein confinement, en plein mois de novembre. L'ambiance peut être pénible pour certains, avec un avenir aussi pas très clair. Est-ce que les connexions à Petit Bambou sont plus nombreuses en ce moment ?
En ce moment, oui, elles ont augmenté de 30 à 40% par rapport à avant le premier confinement. On constate effectivement un fort besoin de prendre soin de soi, de s'arrêter et de s'occuper et de rencontrer ses émotions.
C'est la même tendance qu'au premier confinement où il y a des évolutions ?
Alors, le premier confinement a été vraiment très, très explosif. Passé une phase de sidération les deux, trois premiers jours, on avait constaté un triplement du nombre de nouveaux utilisateurs par jour, passant de 5 000 à 15 000. Ce confinement est un peu moins fort, je pense, correspondant aussi au niveau de confinement que les Français ressentent.
Mais est-ce que c'est moins fort parce que vous aviez gardé aussi une bonne partie des gens qui étaient arrivés lors du premier confinement ? Parce que même si on a été déconfinés, il y a eu des couvre-feux, il y a eu la peur que ça revienne. Donc peut-être que l'habitude qu'on a pris pendant ces moments particuliers, on l'a gardée entre les deux ?
Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on a constaté, c'est que pendant l'été même, les gens continuaient après cette découverte de Petit Bambou en mars-avril, ils ont continué à pratiquer. Et là, effectivement, l'usage continue à être très très fort. On a même lancé un sondage il y a peu de temps avec YouGov auprès de 2000 Français. On avait constaté que 85% des gens qui avaient commencé pendant le confinement voulaient continuer. Donc il y a vraiment un usage qui dure.
Donc on l'entend, il y a un réel engouement autour de la méditation. Est-ce que vous avez mis en place des programmes spécifiques liés à la période ?
Alors on a lancé, au premier confinement, on a lancé un programme créé par Christophe André autour de la méditation de pleine conscience, pour la découverte. Le psychiatre, effectivement. On avait ouvert au grand public un programme autour de l'anxiété, qui s'appelait Sourire à l'anxiété, et qu'on continue à proposer aujourd'hui. Et puis là, en ce moment, on fait des Facebook Live tous les lundis matins, gratuits, pour que les gens puissent s'initier et découvrir aussi des instructeurs de méditation en direct et échanger entre eux.
Il y en a une qui marche plus particulièrement que d'autres en ce moment, c'est l'anxiété, c'est quoi ?
L'anxiété, effectivement, et le sommeil. On constate qu'il y a beaucoup de gens qui se ruent aussi sur nos programmes et sur nos séances avant de dormir ou pour avoir un sommeil plus serein. Et ça, ça correspond, je pense, à un besoin qu'on constate même chez soi, tout simplement.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Petit Bambou, qui ne seraient pas allés encore l'utiliser, ça coûte combien ? C'est gratuit ? Ça se passe comment ? Si moi j'ai envie de me faire un bon programme après la France bouge pour me relaxer ?
Alors, l'application est gratuite au téléchargement et on a accès à 8 séances complètement gratuites, plus 3 séances de Christophe André, et même 3 séances pour enfants d'ailleurs. Et si on veut aller plus loin, on peut s'abonner pour accéder à un vaste catalogue de pas loin de 900 séances, sur un fonctionnement comme Netflix ou Deezer. C'est un abonnement par mois semestriel et l'abonnement revient à peu près 4,99€ par mois si on prend un abonnement annuel.
Philippe Favre, vous êtes le président du groupe Gosport. Alors, en préparant cette émission, on a vu sur votre site que vous vendiez des tisanes, des coussins aussi pour méditer. On est loin du Gosport traditionnel que l'on connaissait. Ça marche ?
C'est accessoire, mais ça participe à la même envie des Français de se replier chez soi, pardon, de se retrouver, donc on peut faire une séance de yoga, une séance de sport et prendre une tisane ensuite. Quoi. Mais c'est vraiment accessoire.
Quand vous dites c'est accessoire, même le yoga, puisque notamment dans les grandes métropoles, c'est vraiment devenu très à la mode. C'est un peu le sport, si on peut le dire ainsi, à la mode en ce moment. Vous le voyez, j'imagine, dans vos ventes.
Tout à fait. Nous, on le voit dans les ventes. Alors, les ventes, évidemment, de tapis de yoga, de tout ce... et aussi les ventes de certains produits textiles qui sont particulièrement adaptés au yoga et qui permettent de faire du yoga chez soi.
Ce qui signifie que vous avez mis en place des rayons soins de soi, rayons... on prend soin de soi, on fait attention à notre mental, ça existe maintenant.
On a des rayons par sport, et dans ces rayons, par exemple dans le rayon training, au fitness, vous allez avoir des produits spécial yoga par exemple.
Ce qui avait très bien marché chez vous lors du premier confinement, c'est le vélo, puisque la mobilité est devenue un point important, notamment dans les grandes métropoles, pas envie de prendre les transports en commun. Je crois que vous aviez vendu tout ce que vous aviez en stock, vous en auriez eu 10 fois plus que vous l'auriez vendu. Est-ce que la tendance se maintient ?
La tendance se maintient, tout à fait. Les Français ont toujours envie d'acheter des vélos pour se rendre au travail la plupart du temps, et de plus en plus de vélos électriques.
Mais vous avez du stock encore assez ?
On a du stock, oui, tout à fait. On a reconstitué nos stocks pendant la réouverture, et là maintenant on a du stock pour vous servir.
Benjamin Blascoco, fondateur de Petit Bambou, c'est quoi la suite pour vous ? Parce que là, tout vous sourit, hein, j'ai envie de dire. Cette période fait que la demande est de plus en plus importante pour prendre soin de soi, pour méditer, pour apprendre à méditer. C'est quoi la suite ?
D'abord, on a envie de continuer à aider chacun à profiter des petits plaisirs du quotidien et les petites joies. Et je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire.
C'est quoi un petit plaisir du quotidien en ce moment ?
C'est par exemple de sortir, juste de sortir l'air frais sur le visage pendant la petite promenade qu'on peut faire chaque jour. C'est déjà profiter, se sentir vivant en fait, tout simplement, et ressentir les émotions positives qui vont avec. Ça peut être de serrer ses enfants quand ils rentrent de l'école le soir, en ayant la chance de pouvoir les serrer contre eux. Donc je pense que tout ça, il y a encore du chemin à faire pour donner, faire apprécier à chacun par des petits exercices de psychologie positive ou de méditation, ces petits plaisirs. Et puis pour nous, en tant qu'entreprise, on continue à se développer à l'international. On a lancé Petit Bambou dans de nombreux pays. On vient de lancer la version italienne, on va lancer une version néerlandaise, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de pays où les gens ont besoin de la même manière de prendre soin d'eux.
Et ça s'appelle comment en néerlandais, Petit Bambou ?
Alors, on a gardé le nom Petit Bambou, ça permet de.
C'est bien
ça
pour
permet
la langue française.
De faire... Voilà, exactement, de parrainer la langue française un peu ailleurs.
Et on rayonne partout dans le monde, c'est ce que l'on voit. Merci à vous, Benjamin Blasco, cofondateur de Petit Bambou.
La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, et comme chaque jour sur Europe 1, dans La France bouge, on est très heureux avec Elisabeth Assayag de vous accueillir. Aujourd'hui, on fait du sport tous ensemble, puisqu'on est avec Philippe Favre, le président du groupe GoSport. Alors, on l'a entendu depuis le début de cette émission. Oui, la plupart de vos 125 magasins en France sont fermés, mais il y en a une petite trentaine qui reste ouverts. On l'a vu parce que vous avez le droit de vendre et de réparer des vélos. Mais ça sert aussi à faire ce que tout le monde fait en ce moment, c'est-à-dire, dans un bon français, du click and collect. Autrement dit, je commande sur Internet et je viens récupérer tout cela en magasin. Vous le disiez, ça marche plutôt pas trop mal en ce moment sur les ventes Internet. Est-ce que aussi le click and collect, ça marche bien du coup chez GoSport ?
Oui, ça fonctionne en effet. D'habitude, on a environ 45 à 50% de nos ventes Internet qui sont en click and collect. C'est-à-dire que les gens achètent sur le site et vont ensuite le récupérer en magasin. Actuellement, évidemment, avec peu de magasins ouverts, on est aux alentours de 10-12%. Donc ça fonctionne, mais ce qu'on va mettre en place dès la rentrée, c'est le click and collect express, c'est-à-dire que les gens pourront acheter sur Internet et venir chercher leurs produits en magasin en 2 heures.
Une forme de drive.
Une forme de drive, tout à fait, où sans être attendu dans le parking comme sur le drive, ils pourront rentrer dans le magasin, aller récupérer leurs produits en 2 heures après l'avoir acheté sur Internet.
Pardon, et ça, c'est en vrai. Qu'est-ce que ça change avec aujourd'hui ? Aujourd'hui, il faut pas attendre
aujourd'hui,
un jour ou deux.
C'est 24 à 48 heures, tout à fait. Donc là, ce sera immédiat.
Il y a déjà pas mal de marques qui font ça et qui permettent de l'obtenir. Qu'est-ce que ça complique pour vous ? Ça vous oblige juste à avoir plus de stock dans chacun de vos magasins
on va chercher
pour faire
le produit,
face à la demande.
On va chercher le produit dans le magasin. Alors, c'est un problème. En tout cas, c'est quelque chose de technique à régler. Mmh. Mais aussi, ça permet aux clients.
Et plutôt que de le faire venir exprès, là, vous le sortez de rayon pour pouvoir fournir votre client. C'est ce qui vous permet d'aller comme ça beaucoup plus vite.
Alors, ce click and collect vous permet aussi vous êtes obligé de faire un bond sur le numérique avec ces deux confinements. Mmh. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, le digital ?
c'est une part importante de notre chiffre d'affaires, et de plus en plus importante. Donc là, actuellement, on est à 7% de notre chiffre d'affaires. Alors, c'est important pour nous, hein, et c'est en forte progression. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer, mais dans une vue où le digital va servir le magasin et le magasin va servir le digital. Donc ce qu'on appelle l'omnicanalité, avec une fluidité du parcours client entre le digital et le physique.
C'est-à-dire que 7%, ça paraît pas énorme. C'est l'équivalent de votre plus grand magasin.
Oui, c'est un bon magasin.
Donc il y a une marge de progression énorme.
Exactement. Et c'est ce qu'on veut mettre en place par le click and collect, par les réservations express, etc., etc. Donc avec cette omnicanalité de plus en plus présente.
Mais donc ça signifie une stratégie différente, donc peut-être des salariés différents. Vous êtes peut-être à l'aube d'une réorganisation, parce que si vous n'êtes qu'à 7%, il va falloir tout repenser.
Non, alors on veut pas. Non, je pense que c'est une question de formation des salariés actuellement en magasin ou ailleurs pour les adapter à cette nouvelle stratégie. Il n'est pas question c'est vraiment une question de formation et pas de changer les magasins, de réorganiser.
Mais ça, est-ce que ça va changer votre stratégie dans le sens de vous dire que le digital, le numérique va fortement progresser, donc vous avez moins besoin de magasins. Vous allez revoir à la baisse le plan de développement que vous pouviez avoir chez GoSport parce que il y a d'autres canaux plus intéressants et plus rentables.
Je ne pense pas. Je pense que l'un se nourrit de l'autre. Et je pense que on aura besoin de repenser les magasins, de les voir différemment, avec toujours à l'aune de cette digitalisation.
Donc du coup, ça va ressembler à quoi, le GoSport de demain?
On est en train d'y réfléchir.
Bah, dites-nous tout, on est entre nous, vous savez. Là, on est vendredi, il est 13h34, on est sur Europe 1 tous les trois ensemble.
Ça peut être des choses très différentes. Ça peut être une expérience client particulière, ce qu'on essaie d'avoir dans nos nouveaux concepts. Il y a un nouveau concept à Parly, un magasin de République qui va être à Parly 2. Voilà. Le magasin de République est en train d'être réagencé.
République à Paris, Parly 2 en banlieue parisienne.
Voilà. Place de la République à Paris. Donc voilà. Donc on est en train de penser à une expérience client différente, qui serait du service, qui serait du contact, etc. Et qui permet d'ajouter quelque chose à la digitalisation.
Votre grand concurrent, c'est Decathlon. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez être certain qu'il faut mieux aller chez GoSport que chez Decathlon? Ils ont un peu tué le match, on a l'impression, des fois.
Oui, ils sont très forts. C'est des concurrents de très haut niveau, exactement. néanmoins, nous, on est différents parce
qu'est-ce
qu'on propose on propose des marques internationales, en fait. Et on propose quasiment que des marques internationales. Si vous voulez trouver des leggings pour faire du yoga d'une marque internationale, je vais citer quelques noms, Nike, Adidas, Asics, etc. Vous pouvez aller chez GoSport et vous ne les trouverez pas chez Decathlon.
Est-ce que dans ce service dont vous parlez depuis tout à l'heure, est-ce que ça signifie que vous allez peut-être aller vers, je ne sais pas moi, le cours de sport en ligne et donc être au plus proche de votre clientèle?
Mais on le fait déjà. On fait des cours en ligne sur Facebook par exemple et on fait des cours dans nos magasins. Notre idée, c'est d'être le coach bienveillant des sportifs français, c'est-à-dire que les accompagner dans leur pratique sportive,
quelle
qu'elle soit.
C'est pas le coach
soit.
Qui bouscule, c'est le
exactement.
Coach qu'on a envie de revoir.
Dont a besoin.
Concrètement, c'est quoi? C'est un cours par semaine?
C'est des séances de ce qu'on appelle des running. Donc, vous pouvez aller courir avec des salariés du groupe de GoSport dans le magasin, autour du magasin. Alors, en ce moment, évidemment.
C'est compliqué.
On a le droit de courir pendant une heure.
Certains, exactement.
Ceux qui habitent à moins d'un kilomètre d'un GoSport, ils ont encore le droit d'aller courir.
Ils vont faire le tour du magasin plusieurs fois. Et ensuite, dans certains magasins, il y a des espaces, le club, dans lequel on peut organiser des séances de yoga, des séances de training, etc. Donc on accompagne le client, le français, dans sa pratique sportive.
Dans votre stratégie, ça pourrait aller jusqu'à ouvrir vos propres salles de sport? Parce que de ce que vous dites, on n'en est pas loin.
C'est un autre métier, nous. On vend des produits, on accompagne les clients, mais on ne sait pas faire du sport.
En tout cas, on est assez impressionné avec Elisabeth du nombre de marques qui viennent ici en ce moment à la France Bouge nous dire « je me lance sur le marché de la seconde main pour ne plus tout laisser au Bon Coin, Vinted ou autre ». Est-ce que vous aussi, c'est un marché que vous regardez pour avoir un rayon occasion au sein de vos futurs GoSports?
On commence à regarder ça en effet. On n'est pas encore tout à fait prêt là-dessus parce qu'il y a des forts...
Une logistique aussi à mettre
exactement,
en place.
Il y a des forts questions logistiques à régler avant. Mais en effet, oui, et notamment pour tout ce qui est vélo et mobilité urbaine. On n'en a pas parlé, mais les trottinettes électriques sont aussi des produits qui sont très prisés en ce moment.
Alors Philippe Fabre, nous allons partir à Orléans, parce que dans les années 30, une marque de vêtements de sport est née. Elle a traversé des épreuves et elle est toujours là, en France.
Moi, je croyais qu'elle n'existait plus, mais on va découvrir Ungaria. C'est la saga du jour dans La France bouge, racontée aujourd'hui par Dora Nana.
Europe 1, La France bouge, la saga.
Avant de devenir Ungaria, c'est au départ la maison Plo et Pradé, une fabrique créée en 1919 à Orléans par deux passionnés de sport, les frères Pradé, qui se lancent dans la confection de chaussures et de ballons en cuir à une époque où le sport commence à se populariser. Jean-Pierre Petit, directeur du pôle sport et vice-président du groupe Royer, à qui appartient la marque aujourd'hui.
C'est vraiment la sortie de la guerre et donc il y a une nouvelle envie d'activité sportive. Les sports collectifs commencent à se structurer, les grandes compétitions commencent à se mettre en place. La maison Plo et Pradé sent cette opportunité et décide d'investir et de se donner une chance de réussir dans le monde du sport et de l'équipement du sport.
10 ans plus tard, ils rassemblent leurs produits sous une seule marque et ça sera Ungaria, le nom d'une étoile découverte à la fin du 19e siècle, mais qui est aussi un clin d'œil à la Hongrie.
Dans les années 30, l'équipe nationale de Hongrie était déjà une des meilleures équipes de football au niveau mondial. L'équipe, le 11 d'or, avec le fameux Puskás. Tous les joueurs étaient équipés en Ungaria. Donc c'est un beau clin d'œil à l'histoire de la marque.
Dans les années 50, c'est l'apogée. Ungaria s'impose comme la marque des sportifs et ça va durer près de 30 ans.
Elle est présente dans de très nombreux sports, le football bien sûr, mais aussi le rugby, le basket, le cyclisme, le tennis, l'athlétisme et même plus tard, la boxe et même les sports de glace.
Ils innovent aussi avec une dizaine de brevets.
Il y a le fameux ballon scaphandre et qui est constitué de 12 pièces de cuir conçues pour améliorer le jeu. Des innovations dans le monde de la chaussure avec des pointes d'athlétisme de façon à ce qu'elles soient plus solides et permettent plus de rapidité et plus de prise au sol pour de nouveau améliorer la performance.
Ils inventent le sponsoring.
À titre d'exemple, lors du championnat de 1965 de France de foot, plus de la moitié des équipes était équipé en Ungaria.
Et s'engage aux côtés d'ambassadeurs prestigieux.
Tels que Bernard Hinault, Guy Dru, Michel Platini, Patrick Proisy. Et on voit qu'aujourd'hui, les marques de sport continuent à être partenaires des plus grands noms du sport et que ça fait partie de leur stratégie de communication et de développement.
Dans les années 70, les frères Pradé cèdent leur marque à leur principal concurrent Adidas et la marque va tomber dans l'oubli pendant près de 40 ans jusqu'à son rachat en 2017 par le groupe Royer.
C'était l'idée de redonner vie à une marque française et notamment à un moment où on commençait à voir que les consommateurs étaient de plus en plus attachés à l'histoire et à l'origine des marques et on voit que aujourd'hui, dans cette période de confinement, cette tendance est de plus en plus forte.
Une marque française qui a gardé son ancrage dans le monde professionnel du sport et qui équipe aujourd'hui notamment le RC Toulon et le Stade Rochelet.
Philippe Favre, le président du groupe GoSport, vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Et aujourd'hui, c'est Philippe Favre, le patron du groupe GoSport.
Et dans ces moments de crise, c'est aussi le moment de créer et de se lancer, comme vous, Stéphane Gervaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 46 ans, vous avez créé la marque de parfum Bienvenue en Bretagne. Donc du parfum made in Bretagne, hein, c'est ce qu'on imagine. Vous allez tout nous raconter. C'est parti pour le pitch, vous avez une minute.
Donc à l'origine, on a voulu rendre hommage à la Bretagne pour participer à son rayonnement avec deux parfums et des cosmétiques haut de gamme. On a, après 2 ans de recherche, on a donc élaboré Hermine et on l'a conçu comme un parfum doux, élégant et un voyage sensoriel sur les rivages de la Bretagne. Triskaï, lui, est un parfum mix qui est puissant, lumineux, qui puise sa force dans les éléments terrestres et maritimes de la Bretagne. Pour Hermine et Triskaï, c'est faire le choix de porter des émotions olfactives de notre belle région, des parfums et des cosmétiques de très grande qualité. Ces produits reflètent une personnalité, une signature et un vecteur d'émotions puissant. Donc je vous invite à vous rendre sur le site bienvenueenbretagne.bzh pour découvrir l'univers de notre marque et commander nos parfums et cosmétiques afin de vivre une nouvelle expérience parfumée.
Ah voilà, déjà vous avez poussé jusqu'à avoir bien le point BZH pour bien évidemment la Bretagne. Bravo pour ce pitch Stéphane.
Alors Stéphane, juste avant de passer la parole à Nathalie Carré, c'est quoi les notes souvent quand on achète du parfum, notes de tête, c'est quoi le sillage par exemple pour Hermine?
Alors pour Hermine, on a des notes de tête de fruits et assez sucrées.
Mais c'est
on
quoi
est sur de la bergamote, la note nectar de cassis. On va être sur du patchouli, de la rose de mai.
Ah bah voilà, ça nous parle là.
Du musc velouté et de la fleur de vanille également, avec de l'ambre gris. Ah donc bah. On a un parfum qui est très,
précis, hein.
très structuré et qui va évoluer au sein des journées.
Évidemment.
Avec une qualité qui fait qu'il va tenir plus de 24 heures, puisqu'on a un jus qui est concentré à plus de 20%.
Nathalie Carré, notre experte CCI, la CCI France, qui est chargée de l'entrepreneuriat là-bas, elle a deux, trois choses à vous dire. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel, bonjour Stéphane. Alors effectivement, déjà 4 points positifs pour votre projet, enfin pour votre entreprise, c'est pas mal. Tout le monde n'en a pas 4, ouais. C'est vrai.
Merci.
D'abord le site qui est vraiment cohérent avec l'image que vous voulez donner, les images sont vraiment jolies, le storytelling nous emporte vraiment en Bretagne, bravo. Deuxièmement, la possibilité d'avoir des échantillons pour essayer, surtout pour le parfum. Elisabeth, voilà, voulait savoir un peu à quoi ça ressemblait.
Bah ouais,
évidemment, le Made
même.
In France. Bah oui, c'est quand même important.
Ça sent très très bon. Je viens de le mettre,
ça a l'air. Ouais. Bah, de loin, moi je vois pas, mais bon. Le Made in France et le côté très naturel des produits. Et puis le dernier point, le design des flacons qui est épuré mais qui est très élégant. Je mettrai quand même 4 points améliorés. Première chose, les échantillons sont payants. Même s'il est possible de déduire le prix de la commande, ça peut être un frein pour certaines personnes. Peut-être que vous pouvez imaginer des échantillons sous forme de papier imbibé, comme dans les magazines, pour baisser les coûts, mais pouvoir les offrir. Deuxième détail, il manque la composition détaillée de vos produits. On a les ingrédients phares, bien sûr, mais c'est quand même rassurant d'avoir tout le détail pour aussi prouver votre assertion qui est le naturel. Troisième point amélioré peut-être, le prix du shampoing douche. Ça fait 145 euros le litre. C'est 2 fois plus cher que toutes les grandes marques. Et ce n'est pas très cohérent avec le marché, en fait, puisque vous avez le même prix pour le lait pour le corps et le shampoing douche. En général, le lait pour le corps est plus cher que le shampoing douche. Et puis, dernier petit point, vous valorisez la Bretagne, valorisez mieux les matières premières que vous utilisez, vos partenaires. D'où vient le genêt, le sarrasin? Qui sont les producteurs? Immergez-nous plus encore dans votre magnifique région.
Emmenez-nous en Bretagne, c'est ça que vous nous dites.
Eh ben oui.
Nathalie.
Ben
parce oui. que moi, je suis tout à fait d'accord avec Nathalie, parce que derrière votre produit, vous mettez Made in France. C'est-à-dire que oui. Tout n'est pas produit en Bretagne?
Non. En fait, on a les parfums qu'on a élaborés à Grasse, avec les plus grands maîtres parfumeurs, et le savoir-faire est à Grasse.
D'accord, mais la matière première est bretonne.
Et alors, la matière
les
première
senteurs sont bretonnes.
La matière première est bretonne pour la cosmétique, qui est entièrement aux extraits naturels bretons.
D'accord.
Avec de l'eau de parfum. Donc
mais je trouve que, comme Nathalie, moi, je trouve que ça, c'est un point à mettre en avant. Qui sont vos producteurs bretons? Où est-ce que vous êtes allé chercher? Il y en a certains qui reproduisent peut-être même des choses exprès pour vous. Donc c'est...
Oui, en quoi est-ce que c'est spécifiquement lié à la Bretagne, en fait? C'est ça qui va faire que vous allez attirer le client.
Absolument. Ben dans les shampoings douche, notamment, vous avez des algues de l'île Molène.
Ah ben voilà.
Vous avez de l'argile de Guérande dans les shampoings.
Ah, ça, sur l'eau atlantique. Attention, les puristes vont vous dire que ce n'est pas la Bretagne.
Vous avez de l'eau de mer... de la mer d'Iroise, par exemple. Vous avez du sarrasin, etc., etc. Donc, effectivement, on a beaucoup d'éléments naturels pour la cosmétique et pour le parfum, effectivement. On a raconté une histoire pour la Bretagne, pour effectivement se rappeler des belles émotions qu'on vit en Bretagne.
Alors, dans l'entrepreneuriat, on aime toujours connaître un peu les histoires. Pourquoi vous vous êtes lancé dans le parfum? Il faut oser quand même en ce moment.
Alors, effectivement, avant, j'étais cadre dans un grand groupe. Et donc, j'ai quitté ce grand groupe pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, participer, on va dire, à essayer de faire rayonner la Bretagne à mon niveau, donc avec un projet. Et donc, effectivement, le parfum est un vecteur d'émotion, est un vecteur de communication qui peut être très, très fort. Et donc, on a imaginé, effectivement, de diffuser la Bretagne à travers ses sentiments olfactifs.
Vous l'avez créé, je crois, il y a un an maintenant, cette marque.
Oui.
On dit toujours qu'il faut faire un retour d'expérience dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et que vous n'aviez pas imaginé?
Le confinement. Le confinement, puisqu'on a créé la gamme de produits pendant le premier confinement. Et nous avons effectivement un retard de création du réseau de distribution avec les acteurs économiques et touristiques de la Bretagne avec ce deuxième confinement, puisque les hôtels, les thalassos, les golfs et autres sont fermés.
Ce sera la prochaine étape, on imagine, pour vous. Philippe Favre, président du groupe Gosport, vous êtes notre grand témoin du jour. Chez Gosport, vous aussi, vous faites de plus en plus attention au Made in France, au fait de présenter des produits fabriqués en France, malgré les géants que nous connaissons tous, hein, les Nike et tous ces géants du sport.
On essaie de développer des marques françaises aussi. Alors évidemment, quand on travaille avec des marques internationales, c'est plus difficile de contrôler le pays d'origine. Mais oui, on essaie de mettre en avant les marques françaises et celles qui sont fabriquées en France.
Quel regard portez-vous sur Bienvenue en Bretagne?
Très, très bienveillant, parce que la Bretagne est une région qui m'est chère. Donc non, je trouve que c'est une très très belle initiative. Je suis d'accord avec vous, je pense que ce serait bien de mettre plus en avant ce qui est breton là-dedans, je ne sais pas si on dit la bretonnité du produit. Mais
la bretonne-attitude.
Voilà, c'est une très belle initiative en tout cas.
D'accord.
Merci en tout cas à vous Stéphane Gervaux, ça s'appelle Bienvenue en Bretagne et c'est une marque de parfum 100% bretonne. On vous souhaite bonne chance.
Et si vous aussi vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour.
Ou par Nathalie Carré.
Et vous par Nathalie Carré, et par tout le monde, par toute l'équipe de La France Bouche, eh bien, c'est très simple, vous pouvez envoyer justement votre candidature sur cette boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance comme ça de faire partie de nos candidats ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
13h54 sur Europe 1, La France Bouge, dernière partie de votre émission. Nous sommes comme chaque jour depuis le début de ce deuxième confinement avec Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la CCI et qui est restée avec nous depuis le pitch. Et on est également aujourd'hui avec Philippe Favre qui est le président du groupe GoSport.
Et aujourd'hui avec vous Nathalie Carré, on va aborder une question qui peut angoisser, certes, parce qu'on y pense tous, surtout quand on a un commerce, mais sans aucun tabou. Comment on évite les faillites quand l'activité est à l'arrêt total ?
Alors, qui a eu cette question ? Flûte alors !
On peut vous dénoncer, c'est vous qui nous avez dit.
Ça vous a inspiré.
Allez,
on y va, pas de tabou, on dit ce qui se passe.
En fait, la chance qu'on a, c'est que c'est quand même pas la première crise que les entreprises peuvent vivre. Donc, il y a une étude qui a été menée sur 3 périodes de très forte récession auprès de plus de 4700 entreprises. Et il ressort quand même qu'il y a une méthode qui est plus efficace que les autres, puisque 37% de ces entreprises-là sont ressorties plus fortes après la crise qu'avant. La méthode, c'est avec une approche double. 1. Optimiser l'efficience opérationnelle et 2. Investir dans le marketing.
Attendez,
et la R&D.
Ça veut dire quoi l'efficience?
Ça veut dire quoi?
J'ai l'impression que c'est la recette magique.
Ouais, c'est ça. Alors, le sujet de l'efficience opérationnelle, en fait, et on s'en est rendu compte avec le premier confinement, c'est comment on peut améliorer ces process pour éliminer toutes les tâches inutiles ou digitaliser un certain nombre de tâches et donc gagner du temps. Alors, une petite méthode pour faire ça. Donc, il ne s'agit pas de supprimer des postes, hein, il s'agit vraiment d'optimiser les ressources. Une petite méthode, mais entre autres, hein, pour faire ça. Vous et vos collaborateurs, vous prenez une feuille de papier, un stylo, jusque-là, tout va bien. Vous listez vos missions courantes, c'est-à-dire ce qui correspond à votre poste. Voilà. Appeler les clients, animer les cours, coacher les clients, etc. Si on prend une salle de sport. 2, vous listez tout ce que vous faites pour réguler des dysfonctionnements. Donc, tout ce que vous faites pour compenser des trucs qui ne fonctionnent pas. Un client qui ne vient pas à son cours, un client qui a perdu la clé de son casier, etc. Et 3, vous listez toutes les activités que vous faites et qui pourraient créer du potentiel demain. Vous vous formez à une nouvelle technique de coaching, vous discutez avec un fabricant qui vend des machines plus performantes, etc. Et votre efficience, elle viendra de toute la suppression de toutes les activités qui dysfonctionnent et puis de vérifier que toutes les missions courantes sont bien affectées aux bonnes personnes.
Alors c'est exactement ce qu'a fait par exemple un très grand groupe français, Peugeot, qui était venu nous l'expliquer il y a de cela quelques jours à ce même micro de La France Bouge. Ils ont tout regardé, ils ont enlevé tout ce qui était inutile en ce moment. Et je crois que c'est le deuxième point le plus important aussi, Nathalie. C'est-à-dire qu'attention, on ne coupe pas ce qui est capital. La recherche et développement, l'investissement, le design par exemple, si on prend l'exemple de Peugeot.
Oui, et attention, le R&D, c'est aussi parfois repenser une offre. Vous avez écrit toutes les activités qui créent du potentiel. Vous avez un coach qui vient de se former à une nouvelle technique. Vous voyez si vous ne pouvez pas proposer une nouvelle offre. Et puis surtout, le marketing. Là, il ne faut pas penser marge, il faut penser fidélité, lien avec le client. Donc, même si votre salle de sport, par exemple, elle est fermée, continuez à parler avec vos clients, proposer des cours en extérieur, proposer des cours à distance, envoyer des SMS de motivation, faites des newsletters, peut-être même prêter votre matériel qui est inutilisé à vos clients les plus fidèles. Mais il faut absolument maintenir le lien pour les fidéliser et pour qu'ils reviennent après et surtout qu'ils vous recommandent à leurs amis pour augmenter le chiffre d'affaires demain.
Philippe Favre, notre grand patron du jour, vous êtes le président du groupe GoSport. Vous êtes en contact avec des salles de sport ?
Oui, tout à fait. On a même prévu des partenariats avec CMG, pour être tout à fait clair, qui devait commencer juste après le premier confinement et qui a été repoussé.
Alors, est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous êtes toujours en contact, c'est-à-dire vous les rassurez justement en disant « mais on ne va pas vous laisser tomber, mais là en ce moment c'est compliqué ». Est-ce que vous maintenez le lien ?
Oui, on essaie de maintenir le lien. Il faut qu'on regarde nous-mêmes comment on peut gérer cette crise, mais il est important aussi que la communauté des sportifs ou des personnes qui tournent autour du sport et qui vivent du sport soient, se serrent les coudes et montrent que le sport est une activité essentielle qui est très importante pour les Français.
Oui, mais quand on est fermé, c'est difficile de se le dire, ça. Comment gagner sa vie, comment ne pas vivre des heures trop sombres.
Par exemple, que propose Nathalie Carré, de prendre une petite feuille, de dire tout ce qu'on peut supprimer en ce moment, tout en préparant l'avenir.
Oui, tout à fait. On l'a fait même, c'est une grande feuille. C'est un grand fichier. Oui, tout à fait, on l'a fait. On a analysé justement ce que les zones où on crée de la valeur, celles où on en crée moins. Et ça nous a permis d'abandonner ou de revoir certains produits. Mais je crois que ce qui est important aussi dans cette période, c'est vraiment l'agilité. Et comme disait Nathalie Carré, c'est vraiment de pouvoir avoir des initiatives, créer de la valeur avec les forces vives de son entreprise et mettre en avant la possibilité de créer de la valeur de l'initiative. Je crois que c'est très important.
Nous, on crée de la valeur chaque jour avec vous, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la CCI. On vous retrouve chaque jour pour le coup de main de la France Bouge pendant toute la durée du confinement.
Et un grand merci à vous, Philippe Favre, hein, le patron de GoSport, de nous avoir accompagnés pendant cette heure en ce vendredi.
Et oui, c'est la fin de votre émission. Emmanuel, on se retrouve lundi à 13h. On va parler de quoi,
alors maintenant qu'on a le tapis de sol, on va aller chercher les jouets pour les petits derniers pour mettre sous le sapin. Et oui, on peut quand même trouver des solutions pour faire des cadeaux en cette période de Noël.
À lundi, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.
La France bouge sur Europe 1.